Chers amis, allons vers la Genèse, chapitre 12, que nous lirons, et c'est quasi miraculeux, dans sa totalité ce matin, comme demain matin, Dieu voulant. Genèse 12, versets 1 à 20. L'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en, ou viens-t'en, ça c'est du vieux français, viens-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras, ou sois, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te méprisera, qui te traitera à la légère, qui t'insultera. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» Et ils me tueront et te laisseront la vie. « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita Abraham avec bonté à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Dans le Nouveau Testament, et dans la fin de la première épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, les versets 11 et 12, 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Je lis donc au verset 11 pour vous. Pour toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience ou la persévérance, le fait ici de tenir sous, de demeurer sous le poids d'une situation difficile sans céder, sans craquer. La constance, c'est Marie Durand ici, pour ceux qui connaissent l'histoire de la tour de Constance à Aigues-Mortes. La douceur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche. Recherche, terme extrêmement fort. Il est utilisé dans le Nouveau Testament pour évoquer Saul de Tarse, le persécuteur. Celui qui, dans une haine terrifiante, pourchassait l'Église de Jésus-Christ, ceux qui étaient de la voie, comme on disait, pour les faire mettre à mort. C'est exactement le terme qui est utilisé ici. Mettre la même ardeur, le même engagement, le même feu brûlant dans la recherche de la justice, la piété, la foi ou la fidélité, l'amour, la persévérance, la constance, la douceur. Combat, le bon combat de la foi ou le beau combat de la foi. Nous avons ici un terme qui évoque la beauté morale. Il y a un autre terme dans le Nouveau Testament qui est traduit par bon ou bonté, qui a un sens légèrement différent. Mais ici, il est question de beauté morale, de beauté du combat. On peut vivre dans la vie chrétienne des combats hideux. Vous savez, il est hélas des croyants, et peut-être en avons-nous été, Dieu nous a corrigés, n'est-ce pas? Il est de ces, pardon de le dire ainsi, de ces croisades pour la vérité qui sont des croisades hideuses, parce qu'elles émanent d'une orthodoxie dure, brutale, condamnatrice au plus haut point, n'est-ce pas? Non. Dieu veut que notre combat soit beau. Il y a une esthétique morale du combat spirituel, et l'apôtre Paul insiste beaucoup, en particulier dans ses deux épîtres à Timothée, notamment dans la deuxième aussi, dans ce testament spirituel qu'il lègue à son enfant bien-aimé dans la foi. Combat le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. J'introduirai notre réflexion qui s'étalera donc sur ces deux dernières études par une citation qui cadre tellement bien avec le texte que nous avons sous les yeux concernant la croissance de la foi. Croissance de la foi qui se trouve en face d'un premier test redoutable, puisqu'il est question d'une famine, qui était sévère, une famine, pourrions-nous écrire, qui pesait dans le pays, puisque le verbe utilisé au verset 10 était grande, évoque aussi dans quantité d'autres passages de l'Ancien Testament la gloire, le poids, la pesanteur, la lourdeur, aussi bien sûr l'éminence, mais tout d'abord l'idée de poids, elle pesait sur le pays. Premier test de la foi, une famine sévère. Un homme de Dieu, dans un livre remarquable intitulé « À la découverte de Dieu », écrit ceci. « Rien n'est plus facilement tenu pour acquis qu'une foi qui n'est jamais mise à l'épreuve. Tant que les choses vont comme nous le voulons, nous continuons à placer en Dieu une confiance qui paraît forte et saine. Nous supposons que tout va bien sur le plan spirituel. Mais que se passe-t-il lorsque notre confiance est brusquement ébranlée? Comment réagissons-nous lorsque les vicissitudes de la vie nous écrasent tout à coup avec une force inouïe? lorsque des tensions qui semblent insurmontables viennent assombrir des relations vitales, lorsque des problèmes de santé ou d'emploi nous isolent de tous, sauf de Dieu, et que celui-ci refuse de se manifester. Question ô combien nécessaire et combien réaliste, à laquelle la Bible répond. La foi toute neuve d'Abraham doit donc se développer. Elle doit être affermie, taillée, éprouvée, purifiée, pour bien s'enraciner en Dieu seul. Et c'est là l'entrée dans le combat, l'entrée dans un combat. On ne peut pas, comme on le fait trop souvent aujourd'hui, évacuer ce mot dérangeant qui occupe tant de place dans les Écritures, tout comme la souffrance occupe tant de place, le combat occupe tant de place. Ne fût-ce que parce que nous avons affaire à un ennemi, vaincu certes, mais qui joue ses derniers coups sur un échiquier cosmique, tout en sachant déjà qu'il va être mis échec et mat. Ceci a été obtenu dès la croix. Mais il est actif. Il est actif et il va donc tout faire pour déloger Abraham du pays de la foi et de la promesse. Dans notre vie avec Christ, nous sommes engagés dans une guerre à deux dimensions. Et vous savez que les stratèges dans toutes les guerres depuis l'Antiquité savent qu'il y a une guerre de mouvement et une guerre de position. Qu'une guerre est constituée de ces, en particulier de ces éléments-là, il y en a d'autres, mais ce sont deux éléments forts. Et il y a dans la croissance d'Abraham à la fois guerre de mouvement et guerre de position. Dans un premier temps, nous allons évoquer quelque peu, dans la première partie du chapitre 12, les éléments qui appartiennent à la guerre de mouvement. On bouge, et puis quelqu'un essaye de contester notre cheminement, notre itinéraire, il essaye de nous bloquer, de nous intimider en cours de route, et puis il y a une guerre de position qui apparaît à partir du verset 10, puisque Satan va en quelque sorte tout faire pour bouter, pour jeter Abraham hors de la terre de la promesse. Et là encore, c'est intéressant de voir dans les Écritures combien il est question de stratégie dans la guerre de mouvement et dans la guerre de position. Nous sommes continuellement attaqués pour quitter un territoire qui est le territoire dans lequel Dieu veut nous voir vivre et grandir. Dans mon livre consacré à Naomi ou Noémie, peu importe, j'évoque très longuement cette question de cette guerre de position. Comment l'ennemi fait tout pour nous pousser hors de Bethléem, de manière à ce que nous nous retrouvions en Moab. Dans la formation de David à la royauté, de l'âge de 17-18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, l'ennemi va essayer d'utiliser Saül, et il va réussir plusieurs fois, pour bouter David hors du territoire dans lequel il est si difficile à vivre, mais qui sera celui sur lequel il va bientôt régner. Et ainsi de suite, tout au long des Écritures, domine cette pensée. C'est Martin Luther qui a dit « Nuit et jour, je suis en lutte avec le diable, le monde et la chair. » Nuit et jour. Et mes bien-aimés, faut-il le dire, cette lutte ne cesse jamais. Nous l'avons vu l'an dernier en évoquant la vie de prière de Daniel, l'octogénaire, n'est-ce pas? Il arrive là sur le crépuscule de sa vie ici-bas. Lui, il ne fait pas les 35 heures, il n'a pas de retraite. Octogénaire, il travaille encore et il mérite même de l'avancement selon son grand patron. Mais il est attaqué parce qu'il est homme de foi, homme de fidélité, homme de vérité, homme de prière. Il est attaqué. On ne supporte pas le témoignage, l'intégrité de cet homme de Dieu après des dizaines d'années de service fidèle. Il est attaqué. Il vit le combat jusqu'au bout. Et jusqu'à ce que Dieu nous reprenne auprès de lui, nous vivrons le combat spirituel. Mais bien entendu, le combat spirituel va prendre d'autres tournures et va être progressivement abordé dans nos vies d'une autre manière. C'est ça ce qui fait la différence, n'est-ce pas? Peu à peu, nous apprenons à vivre d'une manière différente les combats auxquels nous sommes obligatoirement confrontés au fil de notre croissance. Un auteur remarquable pour son livre qui s'intitule « Combattre le bon combat », c'est d'ailleurs la Maison de la Bible qui l'a publié, et je l'ai lu avec beaucoup de plaisir à cause de toutes les dérives sur les notions actuelles de combat dans certaines tendances évangéliques mondiales. L'auteur écrit ceci: « Lorsque nous comprenons ce qui va réellement mal, nous reconnaissons l'existence d'une vive dispute spirituelle pour nos âmes. Quel roi règne, Dieu ou le diable? L'âme humaine est un terrain âprement disputé. Les chrétiens ne sont pas invulnérables à la dérive, au péché, à l'apostasie, à l'erreur ou au mal. » L'auteur ajoute, « La vie chrétienne n'est pas une promenade de santé avec air conditionné et vitesse de croisière. » Le berger de nos âmes nous dirige personnellement sur une route parsemée de bosses, de tours et détours, de nids de poules, d'embouteillages, de tempêtes de neige, d'accidents, de précipices, de faux panneaux de signalisation et même d'attaques terroristes. » Oh, disons-le par souci d'équilibre et d'encouragement, cela ne veut pas dire qu'il y a dans nos vies, qu'il n'y a pas dans nos vies des périodes aussi radieuses que la journée d'hier, avec toutes les conditions réunies pour faire de cette journée d'excursion la plus belle des journées, n'est-ce pas? Il y a dans nos vies, nous le verrons d'ailleurs, nous le citerons en tout cas, sans nous y attarder, de ces moments où c'est vrai. Il plaît à Dieu, qui est un Père merveilleux envers ses enfants, de nous placer dans des situations d'oasis verdoyant, de fraîcheur, de lumière, d'eau désaltérante, etc. N'est-ce pas? Alors, il ne s'agit pas de se focaliser sur le combat au point que nous ne pensons plus qu'à cela, n'est-ce pas? Il y a toujours danger aussi dans ce domaine de déséquilibre. Et c'est pour cela que un autre homme de Dieu a écrit ceci dans son infinie sagesse. Dieu sait exactement quelle adversité nous permettra de croître de plus en plus à la ressemblance de son Fils. Il sait non seulement de quoi nous avons besoin, mais aussi quand nous en avons besoin et comment cela doit se produire dans notre vie. Il est le parfait éducateur, le parfait entraîneur. Sa discipline est toujours parfaitement adaptée à nos besoins. Il ne nous forme jamais trop en permettant trop d'affliction dans notre vie. Même si parfois, le côté douloureux, c'est que quand nous sommes dedans, et même parfois après, nous ne comprenons pas. C'est ça qui est souvent l'aspect pour nous le plus difficile à vivre. Mais nous y reviendrons. Abraham avance dans le pays de la foi et de la promesse, et Satan sait que cette foi toute neuve est une plante bien fragile, mais Dieu le sait aussi. Alors pourquoi ce premier test et tant d'autres tests, mais en particulier ce premier test de la foi qui semble intervenir rapidement dans la vie d'Abraham, sinon dans nos vies, pour la perte de nos illusions sur nous-mêmes. Pour que nous soit révélée notre fragilité, notre vulnérabilité, cette tendance à l'indépendance qui colle à notre peau et qui est l'essence même de l'orgueil. Je peux m'en sortir tout seul, j'ai en moi-même les capacités pour cela. Passage donc obligatoire par l'épreuve de la foi pour nous conduire à une foi de plus en plus totale en lui seul, dans un repos de plus en plus complet en lui, afin que nous apprenions progressivement à trouver notre pleine satisfaction en lui. Il y a dans les Écritures de ces textes clés sur le sujet, je ne vais pas les commenter, mais quand même les lire, puisqu'il est chaque fois question de la foi. Le premier introduit l'épître de Jacques, cette épître éminemment pratique. Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves variées auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve, le test, l'examen de passage de votre foi produit la patience. Là encore, c'est une fois de plus le terme rendu par se tenir, demeurer dessous sans craquer, y compris dans la durée. Mais il faut que cette endurance, cette constance, cette persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, c'est-à-dire adulte, mûr, complètement formé, accompli, c'est-à-dire qu'il ne vous manque rien, sans faillir en rien. Alors c'est intéressant, il y a là le paradoxe de la vie chrétienne, un des nombreux paradoxes. Au verset 2, Jacques commence dans le texte grec par joie complète. Il commence par là. Premier mot qu'il prononce ou qu'il écrit, c'est la joie. Et puis ensuite, n'est-ce pas, hein, c'est un sujet de joie complète que ces épreuves variées auxquelles vous pouvez être exposés. Si vous allez dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 6 et 7, 1 Pierre 1, 6 et 7, après un début merveilleux d'encouragement sur la nouvelle naissance et l'espérance qui possède le véritable disciple de Jésus-Christ à partir de la nouvelle naissance, cet héritage à venir qui ne subit pas les aléas des cours de la bourse, n'est-ce pas? C'est là ce qui fait votre joie, ce qui vous fait jubiler, le terme est extrêmement fort, hein, ce qui vous fait exulter, tressaillir d'allégresse. Et puis alors vous avez ce que j'appelle personnellement le couac. Vous savez, quand on fait un couac en jouant d'un instrument, hein, vous jouez de la trompette et puis subitement, alors là tout le monde l'entend, hein, un couac. Vous avez un couac ici, hein, c'est là ce qui fait votre joie, couac. Maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves variées, une fois de plus, afin que le test, la mise à l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyez le lien très étroit entre la foi et l'épreuve. Il y a là une évidence dans ces deux textes. Vous avez un troisième texte dans Romains au chapitre 5, au début de Romains 5, qui va dans le même sens. Romains 5, verset... Oh, on va lire à partir du verset 1er, parce qu'il y a un crescendo. Étant donc justifié, acquitté, déclaré juste, vu juste, non pas rendu juste. On a eu parfois des versions qui ont là dérapé très nettement. On n'est pas rendu juste, on est vu juste. Et à cause de la croix, à cause du Christ, à cause de ce qui s'est passé un jour à Golgotha, je suis vu juste par Dieu parce qu'il me voit à travers son Fils Jésus-Christ. Et ensuite, par le travail du Saint-Esprit, s'opère une transformation à partir d'une semence de vie nouvelle qui va produire du fruit, selon Galates 5, 22, n'est-ce pas? Donc étant acquitté, innocenté par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport même à notre Seigneur Jésus-Christ, la paix par rapport à Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, de toutes les formes de pression. Le terme original évoque toutes les formes de pression que nous pouvons subir. Il est parfois même rendu par persécution. Sachant que la pression, l'affliction, produit la persévérance. La persévérance, alors ici nous avons la victoire dans l'épreuve. C'est un mot unique dans la Bible, qui est, enfin dans ces textes, qui est rendu par cette petite locution, qui est traduit différemment dans certaines versions, la foi éprouvée ou la fidélité éprouvée. Plusieurs versions vont dans ce sens, et c'est parfaitement juste. Il y a cette dimension de maturité liée à une foi qui a été mise à l'épreuve. Nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la foi éprouvée ou la fidélité éprouvée, et cette victoire, l'espérance. Et nous pourrions ainsi prendre quantité d'autres textes qui évoquent des hommes et des femmes dans le Nouveau Testament qui précisément étaient reconnus comme ayant une fidélité éprouvés. Ils avaient connu des situations de détresse, des difficultés, ils étaient passés par une succession d'examens de passage, de tests, et peu à peu, ils avaient mûri et ils étaient devenus des hommes et des femmes mûrs, adultes, souvent féconds. On pouvait aussi leur faire confiance à cause de cette fidélité éprouvée. Timothée de cela, à deux ou trois reprises, l'apôtre Paul évoque Timothée en disant, voilà, cet enfant dans la foi est un homme à la fidélité éprouvée. Dans la liste très impressionnante des salutations de Paul à l'église de Rome, vous avez notamment un de ces salués qui est justement un homme de Dieu à la foi éprouvée. Il a mûri, il a fait ses preuves. Il faut savoir que les mots éprouvés, tentés, raffinés, émondés figurent plus de 200 fois en eux-mêmes. L'idée est beaucoup plus répandue, mais les termes ne sont pas toujours utilisés. Mais en tout cas, ils figurent au moins 200 fois dans les Écritures. C'est intéressant à savoir. J'ai là encore un court texte que j'aimerais vous lire d'un théologien évangélique qui a écrit de si belles choses. Dieu parsème notre vie de toutes sortes de difficultés, de points d'interrogation, pour nous apprendre à nous attacher fermement à lui. Si la Bible nous rappelle si fréquemment que Dieu est un rocher inébranlable, un puissant rempart, un sur-refuge, un appui pour le faible, c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes faibles, tant au point de vue mental que moral, et que nous ne devons pas nous fier à nous-mêmes pour trouver, pour suivre le bon chemin. Dieu veut que nous prenions conscience de la difficulté, de l'incertitude du chemin de la vie pour que nous puissions apprendre à nous appuyer sur lui avec reconnaissance. Il intervient donc dans le déroulement de notre vie pour nous faire perdre confiance en nous et prendre confiance en lui. Autre citation qui va dans ce sens, et je l'aime beaucoup, « Si j'avais une formule pour éviter les épreuves, je n'en parlerais à personne. Car elles ne rendraient service à personne. Les épreuves engendrent la capacité de les surmonter. Considérez les épreuves comme des amis, car vous en rencontrerez beaucoup dans votre vie, et il vaut mieux que vous soyez en bon terme avec elle. » Et combien de fois, y compris ces dernières semaines, il m'est arrivé de devoir dire à quelqu'un dans un entretien, vous savez, vous vous usez à vous battre du matin au soir contre cette situation. Et ça ne va rien changer. Si vous changez votre regard sur cette situation, ça va tout changer. Si vous commencez à faire de votre situation votre allié, en voyant Dieu en elle, aussi désagréable est-elle, et ça va demander un peu de combat, ça va tout changer. Ça va tout changer. Alors ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il nous faut être des masochistes, de ces amoureux de la souffrance. Ça, c'est une déviation, n'est-ce pas, et un déséquilibre qui court avec présomption orgueilleuse au-devant des problèmes. Vous savez, on n'a pas besoin de courir au-devant des problèmes, ils viennent tout seuls lorsqu'on est fidèle, n'est-ce pas. Toujours ce besoin d'équilibre dans chacune de nos vies. Alors, venons-en au texte après cette introduction qui était destinée à donner le « là » de notre sujet. L'épreuve dans la vie d'Abraham. Première constatation. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, Lot partit avec lui. Nous sommes dans Genèse 12, bien entendu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et puis, une précision, verset 6, ils avancent dans le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aujourd'hui Naplouse, entre Ebal et Garizim, là où Israël prononçait très longuement d'ailleurs des paroles de bénédiction et de malédiction. Il y avait là des temps forts dans l'année et dans l'histoire du peuple pour cela. Ils arrivent donc jusqu'au chêne de Morée. Et l'expression utilisée dans ce cadre sous-entend que c'était très certainement un lieu sacré, parce que dans la religion cananéenne, nous en dirons peut-être un court mot tout à l'heure, la religion ne se pratiquait pas chez les Cananéens dans des sanctuaires. Les sanctuaires, en réalité, c'était la nature. C'était le sommet d'une colline, c'était un chêne, c'était un lieu particulier en pleine nature, parce que, de surcroît, dans la religion cananéenne, tout tournait autour des saisons, des récoltes, des pluies du ciel qui venaient ou ne venaient pas, la fécondité y était attachée. Vous voyez, c'était une religion agraire, si vous voulez. Donc la nature avait énormément d'importance. Et l'usage des termes ici laisse entendre que c'était un sanctuaire cananéen. C'était un point de repère au cœur de ce pays. Et puis alors, il y a justement cette précision hein, qui vient immédiatement. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Vous remarquez cette insistance. « Va-t'en dans le pays », verset premier. Hein, « Va-t'en dans le pays ». Verset 5, « Ils partirent pour aller dans le pays ». Ils arrivèrent au pays, comme Dieu enfonce le clou, hein, pour nous dire « Coucou, faites attention, je dois avoir une chose importante à vous dire ». Et puis là, les Cananéens étaient alors dans le pays. Il y a déjà des locataires dans la maison promise. Et ça, c'est un aspect désagréable. Jusque-là, Abraham pouvait le penser dans sa tête, dans son long cheminement entre Ur et le pays promis, en passant par Charan. Il pouvait imaginer toutes sortes de choses. Mais cette fois-ci, il est au contact de la réalité. Et quand on est au contact d'une réalité, quoi qu'on ait pu imaginer, c'est autre chose que l'imagination. Parce que, nous venons de le dire, les Cananéens n'étaient pas n'importe qui. Surtout au niveau de la religion cananéenne, qui puisait d'ailleurs son inspiration dans la mythologie phénicienne, et la Phénicie, avec Sidon et Tyr notamment, c'était la région, ça c'est un point de repère pour nous, d'où plus tard viendra une certaine Jézabel. Et elle emportera dans son déménagement au moment des épousailles avec un certain Akab, elle emportera dans son déménagement des choses odieuses, n'est-ce pas, qui vont amener le royaume du Nord au paroxysme d'une idolâtrie organisée de manière nationale, cruelle, qui se traduira pour la première fois dans l'histoire d'Israël par une persécution officielle. Officielle. Il y avait toujours eu des problèmes. Mais cette fois-ci, c'est officiel au niveau de l'État, n'est-ce pas? Alors, les Cananéens, là, je vais par exemple vous lire cet extrait toujours avec mon ami le rabbin André Neher, qui dira ceci: certains rites sont particulièrement cruels. C'est en Canaan que l'on a découvert le plus grand nombre de sacrifices de fondation. Et il explique: tout champ nouvellement cultivé, toute maison récemment construite, devant être exorcisée de son Baal, c'est-à-dire de son maître, puisque Baal veut dire d'abord maître, par le sacrifice d'un être humain, d'un enfant de préférence. Le culte abominable du Moloch, le Moloch était la divinité principale des Ammonites, est né en Canaan et s'y est maintenu pendant des siècles. Et la plupart de ces Cananéens ont développé autour du culte des Baals les immoralités les plus abjectes, bestialité, homosexualité. Et André Neher précise, les habitants de la Pentapole, et la Pentapole c'était une série de cinq villes qui étaient dans la plaine où se trouve actuellement la mer morte, et Sodome et Gomorre faisaient partie de cette Pentapole. C'était une région très riche, stratégique à plus d'un égard, et qui a donc donné lieu à des oppositions, etc., épouvantables. On a une guerre un peu plus loin dans l'histoire, n'est-ce pas? Mais c'était une région totalement pourrie, et les Écritures nous le disent si bien. Ah, mes amis, les sacrifices de fondation. On a retrouvé des dizaines et des dizaines d'endroits où vous aviez une jarre partiellement écrasée qui contenait le corps d'un enfant, un nouveau-né parfois, broyé, n'est-ce pas, et ça avait été placé sur une pierre de fondation. Quand on avait inauguré, posé la première pierre, comme on a posé une première pierre ici, il y a bien des décennies, hein, on pose la première pierre, et là, au lieu d'avoir une cérémonie où éventuellement même on place une Bible, hein, c'est arrivé, on va sacrifier un enfant. On a mis des vierges qui étaient allongées et cimentées sur des pierres, et puis on construisait l'édifice, tout ça pour apaiser la divinité cananéenne des lieux, etc., etc. Et le drame, ce qui est épouvantable, mais ça nous ressemble, c'est que dans sa déchéance, dans son recul, dans son apostasie, dans sa prostitution, Israël en est venu à pratiquer la même chose. Et je pense à la chute de Jéricho, où l'un des habitants, plus tard dans la déchéance spirituelle, violé des interdits, n'est-ce pas, par mépris de Dieu et de sa parole, et a certainement bâti sa maison en utilisant, disons, avec cette pratique, n'est-ce pas? Il est fort probable qu'il y ait eu des sacrifices de fondation de la part de cet homme. Ça, c'est du temps d'Akab que ça se passe, n'est-ce pas? Il a sacrifié, certainement, si on peut bien comprendre le texte, son fils aîné, et puis le suivant, lorsqu'il a construit sa demeure. Un mépris d'une cruauté, d'une insensibilité incroyable par affinité, par communion avec la religion ambiante du pays. Il y aurait tant d'autres choses à dire. Le Moloch, on a trouvé des statues de Moloch, même à Carthage. Et ces Moloch étaient des statues d'airain creuses dans lesquelles on enfournait des nouveau-nés, n'est-ce pas? Et c'était de véritables foyers incandescents. On a trouvé des Moloch et des Kémoches qui avaient les mains étendues, complètement rougies hein, par le feu, portées à incandescence. Mais même les Juifs en étaient arrivés à apporter ces nouveau-nés qu'ils auraient dû offrir au Seigneur, et ils les mettaient vivants sur ces mains incandescentes, où ils les jetaient là dans ce four, tout en entonnant des mélopées accompagnées des roulements de tambours. C'est horrible, n'est-ce pas? Alors vous imaginez notre ami Abraham, qui arrive là au cœur de cette terre promise et qui découvre, qui voit alors de ses yeux que la terre est occupée et qu'elle est occupée par une civilisation qui est très 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 problématique. Ça me rappelle lorsque nous avons quitté la Bretagne en début décembre 1979, un certain 4 décembre, et que nous sommes arrivés dans la petite ville de Paimpol, dans le village où nous sommes à quelques à portée de d'Orléans, 15 kilomètres au nord, et je suis allé vers le garage qui était nôtre à partir de là pour y mettre notre voiture. Tout d'abord, la clé qui m'avait été remise ne fonctionnait pas. J'ai dû donc faire appel à un serrurier qui est venu, qui a travaillé la serrure jusqu'à ce que finalement il puisse soulever la porte. Et il y avait, à notre grande surprise, une voiture splendide dans ce garage, pratiquement neuve, d'une couleur étincelante. Et je me suis subitement senti très mal à l'aise. Parce que je me suis dit, mais parce qu'il y avait une série de garages après celui-là, je me dis, mais si nous nous étions trompés, et que derrière la fenêtre, dans une des maisons alentour, il y a quelqu'un qui nous lorgne de l'œil en disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à essayer d'ouvrir mon garage? Heureusement que c'était quelqu'un qui avait clandestinement profité de ce que le garage pendant de longs mois avait été vide. C'était une maison neuve avec un garage neuf. Et il avait réussi, par trafic, à avoir une clé pour y mettre sa voiture. Mais ça fait un drôle d'effet. Hein. Alors imaginons un peu l'histoire de notre ami Abraham. Ce qui produit un éboulement à ma gauche. Et c'est là qu'intervient, vous voyez, c'est là que c'est beau les Écritures. Hein? Et tout de suite, l'Éternel apparut à Abraham. Et vous vous rappelez, hein, ce vient d'acte 7. Je suis là. Ne te laisse pas hypnotiser par les Cananéens. Je sais bien que peut-être pour toi la surprise est désagréable. Tu pensais peut-être que c'était des gens très chics, très impeccables qui allaient te recevoir avec l'hymne national cananéen, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Je suis là et je te renouvelle ma promesse. Je n'ai pas changé entre-temps. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne suis pas une girouette. Comme Messire Talleyrand dans l'histoire de France autrefois, qui changeait de pensée, de parole comme de chemise. Lui qui avait pour devise en tant qu'évêque,
rien que Dieu.
Il a prouvé le contraire. Notre Dieu n'est pas ainsi. Dieu est fidèle à sa promesse et il la renouvelle. Et là, j'ai sélectionné pour vous cette courte parole d'un commentateur de Zacharie, le prophète de l'espérance, qui écrit ceci. Souvenez-vous de la présence de Dieu entre vous et toutes choses. Certains mettent les circonstances entre Dieu et eux. Il est bien plus sage de mettre Dieu entre les circonstances et soi. Mettre Dieu entre les circonstances et soi. Voilà donc ce jeune homme dans la foi qui n'aboutit pas dans un palais doré au milieu des anges. Il entre dans un pays à conquérir, peuplé d'étrangers à la pensée de Dieu qui vont regarder, qui vont réagir. Et comme il arrive avec des troupeaux, en plus, ça risque de faire ombrage dans le domaine économique, dans tous les domaines. Il y a une énorme différence entre eux et lui. Mais Dieu est là aussi. Écoutez ceci, cela m'a fait tant de bien. À force de vivre dans un monde difficile, un monde cananéen, nous risquons d'être plutôt centrés, sur les problèmes plutôt que sur Dieu. Et quand cela se produit, nous perdons la bonne perspective. Graduellement, nos problèmes commencent à paraître énormes et la force du Dieu Tout-Puissant toute petite. Au lieu de déplacer des montagnes par la foi, nous devenons d'éternels guerriers et nous créons des montagnes de pression inutiles pour nous-mêmes et pour les autres. C'est pour ça que ce rappel du Dieu présent et agissant, fidèle à sa promesse, était important dans ce cheminement d'Abraham. Il marche, il continue ses marches, après avoir bâti là un autel à l'Éternel, mais nous y reviendrons. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Je vous fais remarquer ces petits mots, ce petit mot continuellement répété. Là, là, là. Certes, ça donne une certaine lourdeur au texte. Mais vous savez, Dieu se moque de l'élégance de la construction d'une phrase s'il veut faire passer un message. Et il faut tenir compte de ces petites expressions, parce que quand elles sont là et qu'elles se répètent, Dieu dit quelque chose. Vous le verrez dans mon livre « Fidèle, quoi qu'il en coûte », j'évoque le « là » de Dieu, ou le « ici » de Dieu. Que fais-tu ici ? Au début de l'histoire, il y a des « là » qui se succèdent. Le « là » de la volonté de Dieu. Là, c'est la volonté de Dieu. Même si les Cananéens sont là, c'est le « là » de la volonté de Dieu. C'est là où l'on vit au diapason avec Dieu. J'avais mon diapason l'an dernier, puisque j'ai fait beaucoup de chorale, de direction chorale dans le passé. J'avais mon petit diapason que j'ai utilisé pendant des années, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez ce qui était là l'an dernier, que nous l'avons fait fonctionner et que nous avons dit qu'il correspondait au là de la tonalité du téléphone. En tout cas en France, je n'ai pas fait l'essai ici. Mais les téléphones fixes, en France, donne le là, jusqu'à nouvel ordre, n'est-ce pas? Téléphone dans notre relation avec Dieu. Le là de la volonté de Dieu. On le voit, n'est-ce pas, ici? Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, il invoqua l'Éternel, et Abraham, continuant ses marches, en s'avançant vers le midi. Donc, Au départ, il est dans la riche et fertile vallée de Sichem, qui va devenir une ville absolument stratégique dans l'histoire d'Israël. Naplouse, aujourd'hui située à environ 50 km au nord de Jérusalem, on peut l'appeler le jardin de Canaan, pratiquement. Puis, il se retrouve entre Bethel et Haï. Bethel est à 32 km au sud de Sichem et à 15 km au nord de Jérusalem. Puis il continue vers le sud, de plus en plus inhospitalier, vers le Negeb, dit le texte, le midi, le sec, littéralement, la sécheresse, la terre desséchée. Et vous imaginez ? Quand il avance avec ses troupeaux, avec toute sa grande famille, ses nombreux serviteurs, plus il va vers le sud, plus il doit être tenté, en tout cas, c'est un homme de la même nature que nous, en tout cas, moi, je l'aurais fait. Il doit être tenté de se poser des questions. Il est avec une femme stérile, il a, lui, déjà un certain âge, même s'il a encore pas mal de temps devant lui. Il a des promesses absolument extraordinaires de la part de Dieu, une bénédiction fantastique. Il est parti, cette promesse, première promesse de Dieu, carillonnant dans ses oreilles, dans son cœur. C'est une véritable symphonie, n'est-ce pas, pastorale. Et puis, plus il avance, moins il y a de végétation, plus il y a de peine pour trouver des pâturages, plus sans doute autour de lui, dans sa famille, avec ses serviteurs et ses bergers, ça rouspète, ça s'interroge, ça murmure, ça conteste. Peut-être n'ose-t-on pas contester ouvertement le cheikh, le grand chef, n'est-ce pas ? Ce serait très malvenu, mais néanmoins, le climat ne doit pas être particulièrement heureux. Me suis-je trompé ? Me suis-je trompé ? Et c'est alors qu'arrive la cerise sur le gâteau. Mais c'est une cerise aigre. Il y eut une famine. Et regardez l'insistance dans le texte. Dans le pays. Il n'y a pas besoin d'être grand théologien pour lire la Bible. Quand vous voyez dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, il n'y a que ça dans ce texte. Dans le pays, dans les mêmes termes. Comme si Dieu, une fois de plus, voulait dire, tu vois, dans le pays promis, ce pays dans lequel je te bénirai, ce pays dans lequel je te donnerai une descendance nombreuse, ce pays à partir duquel toutes les nations vont être bénies en toi et en ta postérité, dans ce pays-là, il y a eu une famine sévère, dure. Et quand on sait ce qu'est la famine, et je pense à tous ces peuples dans le monde d'aujourd'hui qui côtoient en quasi-permanence des situations, soit en bordure de la famine, soit en pleine famine. Je pense à l'Afrique et à toutes ces régions en bordure du Sahel, n'est-ce pas, qui continuellement se posent d'année en année la question, mais est-ce qu'il y aura les pluies au bon moment cette année ? Et je me souviens, dans certains de mes voyages dans cette région du Sahel, d'avoir vu les dégâts et le travail des missions pour essayer d'aider ces populations regroupées qui viennent vers les villes, pensant là trouver le secours. Mes amis, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait, elle était lourde dans le pays. Une lourde famine, une famine dure. Quel contraste impressionnant avec le contenu de la promesse. Quel changement de niveau de vie par rapport à Ur et Charan. Quand on vous dit, si tu veux le bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Hein? Quand dans l'évangélisation, on ne fait que dire, convertissez-vous et vous allez voir, vous aurez une vie. Ah oui, on en veut de cette vie-là. Et puis on fait quelque part les premiers cheminements, c'est vrai, on a droit, et souvent c'est vrai, c'est comme ça. On vient de se donner au Seigneur et on a les jardins extraordinaires. Dieu dans sa grâce sait que nous avons besoin de verdure, qu'on est extrêmement fragile. Mais tellement vite on commence à déchanter. Tellement vite on commence à s'interroger, mais est-ce que c'est cette personne qui m'a conduit à Christ m'a vraiment dit la vérité? Parce que c'est curieux. C'est pas ça ce que j'attendais. Moi je m'attendais à ce que mon urticaire disparaisse. Moi je m'attendais à être soulagé de mon arthrose. Moi je m'attendais à retrouver du boulot parce que ça fait 2 ans que je suis au chômage. Moi, je m'attendais à ce que ça aille mieux dans mes relations conjugales, ou à ce que tel de 2 enfants qui fait la tête de Turc ait une meilleure attitude à notre endroit. Or, non seulement ça ne va pas mieux, mais c'est pire. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je n'ai pas été trompé? Est-ce que ces promesses de Dieu, ce ne serait pas du toc? Est-ce que ces gens qui m'ont parlé de Christ, en réalité, ne font pas partie d'une secte, désirant s'intéresser peut-être plus au saut que je pourrais leur donner le dimanche qu'à autre chose? On se pose ces questions. Peut-être effectivement parce que nous ne sommes pas, nous l'avons déjà dit, toujours suffisamment loyaux dans notre évangélisation. C'est vrai si tu veux le bonheur, le vrai bonheur. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Mais encore faudrait-il dire ce qu'est ce bonheur. Parce que les gens ont une conception du bonheur qui n'est pas celle que le véritable disciple de Jésus-Christ a du bonheur. On utilise souvent les mêmes termes, mais ils n'ont pas le même contenu. Donc il faut prendre le temps de s'asseoir pour expliquer, sans avoir peur. Notre problème, c'est qu'aussi nous avons peur que si nous disons la vérité, les gens se détournent. Alors il vaut mieux leur montrer la vie en rose, n'est-ce pas? Mais c'est terrible quand on trompe quelqu'un. Alors c'est vrai hein, aussi, soyons honnêtes, que même quand on explique, le néophyte qui vient tout juste de se convertir se figure quand même qu'il va au-devant d'un Eldorado spirituel. Même si on lui a dit. Mais nous sommes néanmoins coupables si nous ne lui disons pas qu'il va connaître aussi des moments très difficiles et que ça va peut-être arriver très tôt. Ne nous étonnons pas après si, malgré le fait que nous l'ayons dit, il connaît ces moments. Au moins nous aurons été loyaux et s'il nous interroge, s'il est tenté de nous reprendre, nous dire tu vas tromper, nous prenons le Dieu. Mais tu sais, rappelle-toi, je t'ai prévenu. Mais je t'ai dit aussi à cette époque que je ferai équipe avec toi. Alors maintenant, on va examiner la situation pour essayer de comprendre tout ce que tu peux apprendre de Dieu dans ces circonstances parce que tu vois, Dieu est présent. Il t'a promis d'être présent avec toi pour toute la course. Mon ami, il est là dans cette situation, dans ce désert. Il est là dans cette famine. Précisons une chose avant d'aller plus loin. Il est question de famine. Qui dit famine, dit de l'eau, du pain, de la viande. L'eau étant primordiale. De l'eau, du pain, de la viande. C'est-à-dire que souvent, la plupart du temps, sinon tout le temps, dans notre cheminement avec Jésus-Christ, et dans les premiers tests de la foi, c'est dans ce domaine-là que nous sommes mis à l'épreuve. Le pain, la viande. L'eau, le pain, la viande. Parce que c'est le domaine le plus courant de notre marche quotidienne. Nous avons besoin d'eau, de pain et de viande. C'est, je dirais, nécessaire, la vitale banalité de la vie. J'ai besoin pour avancer jour après jour de boire, de manger et de manger de manière suffisante et convenable. Et donc je vais être mis à l'épreuve dans ces domaines qui nous concernent tous. C'est là que c'est intéressant. Nous sommes tous concernés, le riche comme le pauvre, l'intellectuel comme celui qui ne l'est pas, etc., etc. Nous sommes tous concernés. Et nous avons tous besoin d'apprendre que nous devons dépendre de Dieu pour nos besoins quotidiens. Et voyez-vous, c'est là que nous avons souvent des problèmes. Certains croyants n'avancent pas dans leur croissance spirituelle parce qu'ils ont des domaines réservés. Et dans le fond, ils vivent avec cette habitude qu'ils ont eue avant leur conversion de dire, ben, il faut que je gagne ma croûte, il faut que je fasse ceci, il faut que je gagne, tout dépend de moi, il faut que j'amasse, etc. Ils ont des conceptions qui ne sont pas divines concernant l'acquisition, la possession des biens, l'usage de la nourriture, etc., n'est-ce pas? Et parfois, ils traînent ces mauvaises approches de l'usage des biens courants, à commencer par le casse-croûte. Et ils traînent ces mauvaises conceptions pendant des années durant. Ils ne veulent pas que Dieu soit seigneur de l'eau, de la viande et du pain. Et mes chers bien-aimés, je n'exagère pas. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte et qu'il a connu ce passage par, hein, cette traversée, cette séparation par la mer Rouge. Quel est le premier problème qu'il a rencontré dans le désert? L'eau, le pain, la viande. L'eau, le pain, la viande. Il a commencé à murmurer parce que ben, ils avaient soif. Et puis ils ont voulu de quoi se nourrir. Et ils étaient dans une situation difficile. Et ils étaient dans une situation d'autant plus difficile. On va prendre le texte dans Exode chapitre 15, verset 22 et suivant, très rapidement. Et paradoxalement, il arrive après un extraordinaire cantique de louange, de reconnaissance, lié à l'éternel vaillant guerrier. Hein? C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom, etc. Le chapitre 15 est sublime, jusqu'au verset 21. Et puis alors là, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Shur, et après trois journées de marche, dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Trois journées de marche dans le désert. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quand Moïse est appelé par Dieu à rejoindre les Juifs en Égypte, après 40 ans de préparation, Dieu lui dit... Une fois arrivé sur place, voilà ce que tu vas dire à Pharaon. Laisse-nous faire trois journées de marche dans le désert pour que nous puissions offrir des sacrifices, en fait adorer notre Dieu. Ceci, vous le trouverez dans, je vais vous chercher le texte si je le trouve immédiatement, au chapitre 5 de l'Exode, au verset 3, au chapitre 8, verset 23. Déjà au chapitre 3, verset 18, c'est répété plusieurs fois. Trois journées de marche dans le désert pour rencontrer notre Dieu, pour lui offrir des sacrifices. Et vous savez que il a fallu finalement ces 10 plaies pour que la Pâque ait lieu et pour qu'il fasse ces trois journées de marche dans le désert. En excluant, bien entendu, ce passage, hein, ce cheminement rapide vers la mer des gens. Mais c'est quand même intéressant que la même expression soit là. Ils font trois journées de marche dans le désert pour adorer Dieu, pour se réjouir en lui, pour lui dire des actions de grâce, le reconnaissance, pour lui offrir en quelque sorte des sacrifices. Et au bout de trois jours dans le désert, ils ne trouvent point d'eau. C'est vexant, hein? Ils ne trouvent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, alors c'est d'autant plus gênant, c'est qu'il y avait de l'eau. C'est pire, n'est-ce pas? Quand vous arrivez, que vous vous assurez, c'est pas un mirage, c'est de l'eau. Hein, vous vous êtes déjà inquiété en se disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un mirage, est-ce que c'est la réalité? Finalement, vous découvrez, on vous crie de l'avant, mais c'est vrai, vous pouvez venir, c'est pas dans votre tête, c'est pas un mirage. Et puis, mes amis, et quand on a soif, et quand ça dure, Marat, ils ne purent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, l'eau devint douce, et ce fut là, remarquez, hein, ce fut là, là, là. Dans ce contexte, de mise à l'épreuve de la foi, dans le cadre de l'amertume et de sa guérison, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, l'épreuve de la foi, dans le domaine de la flotte, mes amis, de l'eau. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous, nous avons le privilège inouï de connaître la suite du texte et de savoir qu'il suffisait, chers amis, de faire 8 kilomètres, c'est pas grand-chose 8 kilomètres, hein, 8 kilomètres plus loin, Élim, 12 sources d'eau, une source par tribu, hein. Ils pouvaient se partager. Hein. Allez, qui sont ceux qui appartiennent à la tribu de Juda? Vous allez là-bas. Qui sont ceux qui appartiennent à la tribu de Manassé? Vous allez par là. C'est extraordinaire. Chacun avait sa source et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent près de l'eau. Vous savez, la bénédiction de Dieu n'est jamais bien loin de la mise à l'épreuve. Mais nous sommes tellement focalisés, hypnotisés par les eaux amères, que nous ne pensons pas plus loin. C'est ça notre problème. Quand je pense à ces espions d'Israël dans Nombre 14 et 15, qui rentrent pour décrire la beauté du pays, etc. Mais qu'est-ce qu'ils disent surtout? Nous avons vu des géants, plus que des armoires à glace, n'est-ce pas? Ils n'ont pas parlé du reste suffisamment. Il n'y avait pas que les géants. Il y avait déjà les marques d'une bénédiction extraordinaire de Dieu dans tout ce qu'ils avaient vu. Il y avait aussi des grappes géantes. Mais c'était les géants. Et ça, c'est notre problème. Nous nous laissons hypnotiser dans nos mises à l'épreuve par ce côté désagréable, négatif, qui nous impressionne, qui fait pression sur nous. Et parfois, ça nous empêche de voir tout ce que Dieu est en train de préparer. Tout ce que Dieu est en train de préparer. Alors, dans la suite, hein, au chapitre 16, je ne vais pas le commenter, le chapitre 16, c'est le pain et la viande. C'est la suite. Mise à l'épreuve, avec des enseignements précis de Dieu, tu dois, peuple d'Israël, apprendre à dépendre de moi pour ton casse-croûte. Dans le fond, ton salaire, il n'est pas à toi. C'est un cadeau de ma part. Même si tu travailles, je pourrais t'ôter la santé, tu ne pourrais plus travailler. Donc finalement, rien ne t'appartient. Tout est à moi. Ta vie, ta santé, tes forces, le métier qui t'est donné, l'argent que tu y gagnes, tout ce que tu achètes, à commencer par chaque jour la possibilité d'aller au magasin. On le fait tellement naturellement aller au magasin, n'est-ce pas? Et pourtant, nous devons apprendre que rien ne nous appartient. Et c'est une école de foi. Je pourrais vous raconter, je ne vais pas le faire ici, mais je pourrais vous raconter tant et tant d'expériences où je me souviens d'une fois où j'étais dans l'aumônerie militaire en Allemagne et Dieu m'avait vraiment donné un ordre de mission, là aussi, extrêmement clair, et je devais aller voir une famille, des amis suisses qui étaient dans une ville assez loin de là. Et j'avais dit au Seigneur, mais Seigneur, tu sais, si tu m'envoies, j'ai bien l'argent pour acheter le billet aller de train, mais je n'ai pas pour le retour. Et dans ma tête, je ne pouvais pas y aller. Dieu m'a dit, tu y vas quand même. Tu y vas avec l'argent de ton voyage aller, c'est tout. Et je vais m'occuper de toi pour le retour. Là encore, j'ai pris des précautions. Quelqu'un me demandait, je crois, hier ou avant-hier, mais comment fait-on pour discerner la volonté de Dieu? Alors je l'ai ramené à fidèle quoi qu'il en coûte, puisqu'un chapitre entier est consacré à ces points de repère fondamentaux dans le discernement de la volonté de Dieu. Il faut faire attention. Et c'est là qu'une fois de plus, baigné dans le climat, dans la totalité des Écritures, est extrêmement important, mes amis. Si je ne suis pas imprégné de la pensée de Dieu, les Écritures, c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Et notre problème aujourd'hui, c'est effectivement que nous sommes venus un peuple tellement pauvre dans ce domaine, nous ne pouvons plus saisir la pensée de Dieu. Donc je suis parti finalement pour un week-end. Et bien sûr, pendant tout le week-end, je rappelais à Dieu ce qu'il m'avait promis, ce qu'il m'avait dit. Seigneur, tu as promis que tu t'occuperais de moi de manière à ce que je puisse rentrer dans les temps à l'aumônerie militaire. Et voyez-vous, c'est sur le quai de la gare, au moment où le train allait arriver, que Dieu a donné la solution. Je pourrais vous faire rencontrer l'ami suisse qui a vécu cela à mes côtés, parce que c'est un des principaux administrateurs de la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse. Quand nous en parlons aujourd'hui, nous connaissons depuis 40 ans, les larmes viennent à ses yeux, parce que c'est lui que Dieu a utilisé. Et voyez-vous, Dieu l'a utilisé d'une manière fantastique. Voilà un ami qui, à cette époque, avait pour principe de ne jamais avoir un sou en poche. Mais, curieusement, dans la semaine qui venait de se terminer, il avait pris de l'argent en espèces, pour une raison bien précise, avec laquelle il devait acheter une paire de chaussures. Il a fréquenté je ne sais combien de magasins de chaussures de la ville de Hagen, en Allemagne, dans la Ruhr. Pas de paire de chaussures pour lui. Et pourtant, il y en a des magasins de chaussures à Hagen. C'est pas un petit village. Il est rentré à la maison et il a oublié de régler son problème d'espèces qu'il n'aimait pas traîner avec lui. Et c'est subitement sur le quai de la gare que Dieu lui a rappelé qu'il y avait une petite réserve spéciale dans sa poche qui n'était pas pour des chaussures, qui était pour son frère Maurice Decker. Et je suis monté dans le train avec ce qu'il fallait. Je ne lui avais pas crié du matin au soir, tu sais, j'ai un besoin, Dieu est grand. C'est une des expériences. Vous savez, je n'ai pas eu une famille derrière moi qui m'a envoyé des sous, qui m'a payé des costumes, ou qui m'a payé mes études quand j'étais étudiant à l'Institut Emmaüs, ni à Vennes-sur-Lausanne pendant 2 ans, ni ensuite au-dessus de Vevey pendant 1 année. Je n'avais pas non plus une église locale fidèle qui était derrière moi, parce que je découvrais ces années-là, les églises évangéliques étant issues de milieux réformés qui m'avaient coupé les vivres. Dieu m'envoyait pour me former. Dieu a pourvu à tout pendant ces 3 ans. Et plus d'une fois, j'ai été chevalier de la Bourse Plate. Et je me souviendrai de tant d'expériences. J'en ai déjà raconté. Mais je pense là-dedans. Dans ces jours où je disais au Seigneur, « Seigneur, mais il va faire froid cet hiver. Je n'ai pas de manteau, je n'ai pas de chaussures, de chaussures hautes pour la neige. Seigneur, mais comment est-ce que je peux faire ?» Et je le disais au Seigneur simplement. Et je me souviens avoir dit cela une fois pendant 4 jours, journellement, je disais, « Écoute Seigneur, tu sais. » Mais le 4e jour, Dieu m'a dit, « Maurice, maintenant ça suffit. » Tu m'as assez demandé, qu'est-ce que tu attends pour me remercier? Oui, remercie-moi, c'est réglé. Bon, c'est réglé, j'ai remercié le Seigneur. Oh, c'était pas facile, hein? 1 heure plus tard, le téléphone sonnait. Une chère sœur et mère en Christ à 25 kilomètres de là, à Lausanne, qui a prié pendant 25 ans pour nous tous les jours plusieurs fois, femme de Dieu, femme de prière, était au téléphone. Elle ignorait tout, comme les autres. Il a dit, Maurice, tu sais, est-ce que tu as besoin d'un bon manteau chaud? Et comment? Eh bien voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de t'offrir un bon manteau, tu vas le recevoir par le courrier, par les postes, demain ou après-demain. Le lendemain ou le surlendemain, le paquet arrivait. Dans le paquet, il y avait le manteau chaud, fourré, que j'ai pu utiliser plusieurs années. Et il y avait mes chaussures. J'avais rien dit pour les chaussures. Mais les chaussures étaient là. Et vous savez le problème des chaussures? C'est la pointure. Seigneur connaissait ma pointure. Et elle m'allait, pardon de le dire, pour des chaussures, comme un gant. C'était magnifique. Je me souviens m'être agenouillé dans ma chambre. C'était ma troisième année d'études à Emmaüs. En disant, Seigneur, je n'ai plus de chemise, ça s'use, j'ai besoin d'une bonne chemise. Et Seigneur, tu sais, je ne sais pas si quelqu'un était en train de tendre l'oreille et de regarder par le trou de la serrure. En tout cas, je n'ai pas hurlé la chose. Toujours est-il que quelques heures plus tard, quand je suis revenu dans ma chambre, après en avoir parlé à Dieu, il y avait plusieurs chemises sur mon lit. Je n'ai jamais su d'où elles étaient venues. Mais c'est comme ça que Dieu nous forme. C'est comme ça que Dieu nous forme. Bien sûr, avec pour chacun des approches différentes en fonction de notre situation, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça, je le vois pour nos propres enfants, pour notre dernier qui va sur ses 24 ans et qui est en train d'entrer dans la vie professionnelle parce qu'il vient de terminer en juin ses études universitaires. Et nous avons eu des entretiens. Nous bénissons Dieu pour ce fils, Emmanuel. Il est venu ici, il a servi ici. Mais notre Emmanuel apprend ça en ce moment. Et ça a été formidable parce qu'il avait un problème concernant la fidélité dans la gestion financière, parce qu'il travaillait ici et là, puis il y a la bourse, etc. Voyez, il était en rade dans ce domaine pendant un certain temps. Il me l'avait dit très, très, très honnêtement. Alors on en a un petit peu parlé. Et puis je l'ai encouragé, je lui ai dit, écoute, tu sais, je lui ai rappelé l'histoire d'un certain Colgate, celui qui est à l'origine des savons Colgate et du dentifrice Colgate, etc., qui était un orphelin, et sa maman, avant de mourir, lui a dit, écoute, tu vas partir sur les routes de la vie, tu seras tout seul, souviens-toi d'être fidèle au Seigneur dans le domaine financier. Et il est devenu d'une telle fidélité que, vers la fin de sa vie, c'était la quasi-totalité de l'argent qui partait dans l'œuvre de Dieu. Il avait le petit reste pour vivre et ça lui suffisait largement. Alors j'ai raconté cette petite histoire à notre Emmanuel. Et je lui ai dit, écoute, continue à mettre Dieu à l'épreuve. Tu as du retard. Bon, Dieu ne te mettra pas sur la paille. Mais sois lui fidèle. Sois-lui fidèle. Si tu ne règles pas ces questions maintenant, tu auras beaucoup plus de peine à les régler plus tard dans ta vie. Entre nous, soit dit. Je crois le soir même, il y avait un don. Pourtant, je lui avais dit, je te parle pas pour moi. Je ne cherche pas de l'argent de ta part. Il faut parfois dire ces choses, hein. Parce qu'il est membre de l'association La Bible à cœur ouvert, qui gère notre ministère. Trois de nos enfants sont membres de cette association. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas pour moi, c'est pour ta gouverne, pour ta croissance spirituelle. Règle cette question. Le soir même, il y avait un don sur mon bureau pour notre association. Et j'étais touché parce que c'était d'abord son désir de régler le problème avec Dieu. Et je lui ai dit, tu sais, Emmanuel, tu attends, toi, de ton côté, une aide financière qui t'a été promise par un organisme avec lequel tu as fait un stage de 5 mois. Cette aide ne vient pas, ça te gêne. Peut-être Dieu est-il en train de bloquer cette aide parce qu'il veut d'abord que tu apprennes à compter sur lui. Et voilà que notre Emmanuel arrive le lendemain ou le surlendemain, étant allé à 80 km de chez nous, il a sa chambre et où il est associé à une vie d'église, et il me dit, papa, c'est formidable. Cette société m'avait dit qu'elle me donnerait 300 euros à la fin de mon stage, et à ma grande découverte, j'ai reçu 600 euros. Alors je lui ai dit, tu vois, c'est pas des mathématiques qu'il faut faire avec Dieu. Il ne s'agit pas de lui dire, si je te donne 100, tu me donneras 200. Mais Dieu sait. Dieu sait. Alors il nous met à l'épreuve. Et c'est parfois difficile. On n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et ça, ce n'est pas valable pour les serviteurs de Dieu qui sont, comme on dit, mis à part pour une œuvre qui fait qu'ils ne sont pas dans la vie professionnelle classique. Hein. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde doit apprendre à vivre de cette manière. Ça fait partie de la croissance dans la foi. La famine est pour tous, comme l'abondance sera pour tous aussi, de certaines manières.